autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. Pour nos rediffusions d'été, nous avons choisi aujourd'hui de nous réinterroger sur 30 000 ans d'histoire commune entre les hommes et les chiens. Qui a domestiqué qui? Comment le loup est-il devenu le meilleur ami de l'homme, qui en retour est devenu le meilleur ami du chien? Et qu'est-ce que ça dit de nous? Que font tous ces chiens dans notre histoire mondiale? C'est à hauteur de museau, du point de vue canin, que notre invité, Laurent Testo, spécialiste d'histoire globale, a choisi d'appréhender cette longue histoire commune, cette coévolution entre les hommes et les chiens. Homo Canis, c'est le titre de son ouvrage à nul autre pareil, que nous avions découvert ensemble en février dernier. Nous vous proposons de réécouter cet entretien croisé, humain et canin, autour de la question « Pourquoi l'histoire des chiens raconte aussi celle de notre humanité ?» Bienvenue. Bonjour Laurent Testo.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste scientifique, globe-trotteur et auteur, spécialiste d'histoire mondiale et globale. Vous venez de publier aux éditions Payot une formidable histoire des chiens et de l'humanité. Homo Canis, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, je le signale au passage. Pourquoi Laurent Testo avez-vous choisi de vous mettre à quatre pattes, si j'ose dire quasiment dans la peau des chiens, de leur donner la parole en tout cas, pour que ce soit eux, cette meute d'historiens canins qui nous racontent cette longue histoire commune?
Parce que il devient urgent, en fait, de s'intéresser d'abord aux intelligences animales, maintenant qu'on commence tout juste à sortir d'un certain dogme qui voudrait que les animaux soient exclusivement à notre service, voire qu'ils ne souffrent pas. On a démontré amplement qu'ils sont capables d'intelligence, de souffrir, de se projeter dans le futur, de se rappeler le passé. Voilà, donc il importe maintenant de leur donner la parole pour comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. C'est presque une question d'éthique. Et donc, effectivement, l'histoire et la littérature peuvent s'allier à ce niveau-là pour leur donner voix.
Pour leur donner voix à tous ces chiens, il y en a vraiment de toutes les tailles, de tous les genres et de toutes les races. Chaque chien, en gros, raconte une histoire, ou plutôt des histoires, car c'est aussi quelque chose que vous avez constaté dans vos voyages à travers le monde. Les chiens n'ont pas du tout le même statut partout autour du monde aujourd'hui.
Oui, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas non plus le même comportement. Et en fait, les chiens ressemblent beaucoup. Quand on dit chien en Occident, on pense spontanément à une espèce définie, généralement celle qui a dont on est le plus fan. Mais c'est quelque chose de particulier que les races canines, qui est propre à l'Occident et qui a à peine un siècle et demi d'existence. L'immense majorité des chiens dans l'histoire de l'humanité, et même encore aujourd'hui, ce sont des chiens qu'on appelle dans le monde des chiens jaunes, des chiens de village, des chiens parias.
Des chiens errants.
Des chiens errants. Et ces chiens-là, donc ces chiens jaunâtres, effectivement, souvent d'environ 15-20 kilos, vivant en cohabitation avec les humains, sans être en général dans les maisons. C'est ça la condition même de la chiennerie que j'oppose ainsi à l'humanité. Et donc, c'est cette matière première-là que nous avons utilisée plus tard pour faire d'abord des types, c'est-à-dire des chiens avec un aspect physique qui permettait de leur faire accomplir certaines tâches, et puis beaucoup plus tard des races. Et donc, c'est cette évolution-là aussi qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que le prototype même du chien, c'est bien le chien que l'on croise en Afrique, en Asie, à la sortie des villages, dans les dépotoirs. Ce chien qui se nourrit de nos ordures, c'est le véritable ami de l'homme.
C'est lui le véritable ami de l'homme. Une histoire, vous le dites, qui remonte à très loin. Hein. Une longue histoire de coévolution, on peut le dire comme ça, entre hommes et chiens, qui remonte à plus de 30 000 ans. Aujourd'hui, c'est prouvé, le chien descend du loup, et plutôt deux fois qu'une.
Oui, plutôt deux fois qu'une, peut-on dire. Les premières traces que l'on soupçonne sont en Europe et en Asie centrale, sous forme de canis dont on suppose qu'ils ont été domestiqués, donc des loups potentiel. Le problème, c'est que la génétique a prouvé que l'essentiel des loups, des chiens avec lesquels nous vivons aujourd'hui, descendent d'un épisode de domestication qui s'est produit en Chine il y a environ 18 000 ans. Donc l'explication serait que les loups domestiqués en Chine se soient transformés en chiens et que leur diffusion dans le monde entier ait progressivement assimilé les génomes des autres épisodes de domestication de loups ailleurs dans le monde. Mais en tout cas, ce qui est prouvé, c'est que les chiens contemporains descendent du loup gris et que l'immense majorité d'entre eux descendent d'un épisode de domestication en Chine il y a 18 000 ans.
Comment ce prédateur indompté, donc le loup, est-il devenu en quelques dizaines de milliers d'années l'animal domestique par excellence, même si vous avez parlé bien sûr des chiens errants? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre autour de la question pourquoi l'histoire des chiens raconte aussi l'histoire de notre humanité. Allez, on va commencer nous aussi à quatre pattes sur les traces de Didier, le film dans lequel Alain Chabat se transforme en chien. Bande annonce.
Il est court ce chien là.
Niam niam, Didier.
Bon, il est où ce con de chien là maintenant?
Il peut pas rester là, votre ami, sur le palier.
Oui, oui, non, mais c'est pas mon ami.
Oui, oui, non, mais il gratte.
Mais pourquoi vous grattez? La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré.
Jean-Pierre, c'est sûrement très clair pour toi, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien?
Appeler un chien Didier, c'est spécial.
Didier. D-I-D-U-R, mon chien.
C'est quoi comme origine, ça?
C'est un labrador.
Je vois pas pourquoi Didier, ce serait plus spécial que Médor. Oh!
Mais enfin, fait, un peu de calme, ça va pas?
Voilà, il est joueur.
Il est surtout con.
On ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle.
Didier, on y va, on s'en va. Hein?
Non, non. Va dans ton panier. Chier à sentir le cul sans un...
Et oui, c'est bien Jean-Pierre Bacri qui tient la laisse de Didier, alias Alain Chabat, transformé en chien. Laurent Testot, qu'est-ce qui caractérise un chien, justement? On venait de... Vous avez dit que c'était... Il y avait les chiens errants qui étaient en grande majorité, mais il y a une telle diversité aujourd'hui de chiens sur la planète. On peut se demander, dans tous les portraits que vous dressez, ou dans tous ces chiens, historiens chiens que vous faites parler, ce qu'il y a de commun entre un bichon et un dogue allemand, un corgnou bâtard, un lévrier ou un chien de chasse. Qu'est-ce qui fait un chien?
Ils partagent tous la même génétique, ils descendent tous d'un loup gris. Alors dites-vous bien la prochaine fois que vous croisez un chihuahua dans la rue, qu'il y a 15 000 ans, c'était un loup gris.
Un petit chihuahua.
Oui, d'accord. Un petit chihuahua. L'idée, c'est simplement que les loups avaient déjà une formidable souplesse morphologique, en fait. Par exemple, les loups du Grand Nord sont des animaux de 70 kilos, puissants, qui chassent en meute des herbivores qui font 10 fois leur poids. Si vous descendez beaucoup plus au sud, que vous allez en Inde ou en Arabie Saoudite, vous trouverez aussi des loups, ou même en Afrique du Nord. Et là, vous avez affaire à des bêtes de 10-15 kilos, hautes sur pattes, qui se nourrissent de sauterelles et de rats et qui chassent en solitaire. Ils se sont adaptés à tous les milieux parce qu'ils avaient cette souplesse de s'adapter par le corps et par l'esprit.
Et c'est pour ça que les hommes, même si on ne peut pas remonter dans la tête des hommes qui les ont domestiqués les premiers, on va se demander d'ailleurs au fond qui a domestiqué qui, mais c'est pour ça que les hommes s'en sont servis comment? Peut-être d'abord comme chien de chasse, comme chien de guerre?
C'est difficile de savoir. Alors, comme chien de guerre, non, parce que quand on les a domestiqués, il y a 15 000 ans, il y avait... la guerre n'existait pas comme phénomène systématique, à ce qu'on en sait. Comme chien de chasse, c'est peu probable, parce que quand vous prenez un animal sauvage et puis que vous faites aider par lui pour aller chasser, il va garder le gibier. C'est ce que fait un dingo en Australie aujourd'hui. Sauf si vous chassez quelque chose de très gros, comme le mammouth. L'hypothèse est possible, dans ce cas, effectivement, il ne peut pas courir avec le mammouth, il est obligé de le partager avec vous. Mais plus probablement, il a servi, comme il sert aujourd'hui dans certains endroits, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à manger les ordures des gens. Et par exemple, si vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous verrez des chiens qui torchent le derrière des tout-petits. C'est parfaitement hygiénique, hein, quoi qu'on puisse faire la grimace à voir ça, mais c'est mieux que la couche culotte d'un point de vue écologique. Et voilà, donc le chien vit d'ordures a probablement été notre premier compagnon. Et une des humanisations du chien, par exemple, c'est que quand on a inventé l'agriculture, qu'on a commencé à se nourrir de céréales, sa faune intestinale a muté avec la nôtre et que le chien est parfaitement capable de digérer l'amidon, comme nous. Ce qui veut dire, quelque part, que nous avons humanisé le chien et qu'il a toujours mangé nos restes.
C'est vraiment une histoire de coévolution, là. On parle vraiment de coévolution. Le chien s'est adapté à nous, comme nous nous sommes aussi un peu adaptés au chien.
Oui, nous avons probablement un peu de chien en nous. Mais par rapport au chien, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le chien est un canidé qui n'existerait pas sans l'humain. En fait, la différence fondamentale, c'est que le loup est un carnivore, pour l'essentiel, alors que le chien est vraiment un omnivore, comme nous. Le deuxième point, c'est que le loup, pour éduquer ses petits, a besoin de la collaboration d'une meute. Une meute, en fait, c'est une grande famille, papa, maman, qui ont gardé les grands frères et les grandes sœurs pour mener à bien l'élevage des plus petits, l'éducation des plus petits. Donc il faut 2 ans pour faire un vrai loup autonome dans la vie, etc. C'est très long comme processus. Moyennant quoi, le loup est un animal formidablement adapté au biotope sauvage quand il n'y a pas d'intervention humaine. Le chien, lui, a décidé de sous-traiter à l'humain l'élevage des petits. C'est-à-dire qu'en gros, la chienne a beaucoup de petits, beaucoup plus que le loup. En revanche, beaucoup vont mourir. Ceux qui vont survivre, en général, ce sont ceux qui se font prendre en charge par les humains d'une façon ou d'une autre, y compris parmi les chiens errants. C'est ceux qui vont attirer l'attention des chiots auxquels on va laisser un accès à la nourriture et qui vont ainsi pouvoir survivre. Donc, en très gros, le chien a coévolué avec l'homme en ayant un peu avec nous le même rapport que le coucou a avec les autres oiseaux. Il nous sous-traite l'élevage de ses petits.
Drôle de regard que vous portez sur les chiens et sur notre histoire, hein, autour de la question pourquoi l'histoire des chiens raconte aussi celle de notre humanité. Je vous propose un nouvel éclairage. C'est celui du paléoanthropologue Pascal Pic, spécialiste de l'évolution des hommes et des grands singes, qui était notre invité.
L'histoire des chiens et des hommes, elle est beaucoup plus ancienne que nous l'avons longtemps imaginé. Ça remonte au moins à 30 000 ans, si c'était 40 000 ans. Et là, on n'est pas du tout au néolithique, dans les agricultures. Et la vraie question est de savoir, est-ce que ce sont les hommes, comme on l'a cru, qui ont l'idée de domestiquer des loups, parce qu'on sait que génétiquement, ça vient des loups, ou est-ce que nous n'avons pas un phénomène absolument extraordinaire de commensalité, c'est-à-dire de coévolution, entre deux espèces qui, rapidement, ont assez vite compris qu'elles avaient intérêt à être ensemble. Et comme, d'une certaine manière, autant l'un est horizontal et l'autre est vertical, autant l'un a un museau avec une perception des odeurs et même l'ouïe absolument extraordinaire, alors que l'homme, c'est plutôt la vision et d'un peu plus haut. En gros, ces deux espèces n'étaient pas faites pour se rencontrer, mais du jour où elles se sont rencontrées, leur complémentarité a fait que, à partir de là, plus rien, plus aucune espèce ne pouvait résister à l'expansion des hommes et des chiens.
Plus rien ne pouvait résister à l'expansion des hommes et des chiens. Vous voulez réagir, Laurent Testot, à cet éclairage de Pascal Pic ?
Oui, c'est très probablement vrai dans l'expansion de l'homme moderne, sinon en Eurasie, au moins en Amérique. C'est que les chiens ont été un des facteurs, effectivement, facilitant l'implantation humaine dans des territoires nouveaux. C'est vrai qu'on a une énigme, c'est-à-dire qu'en gros, les loups ont dominé les écosystèmes en Eurasie pendant toute la période glaciaire, pendant 2 millions d'années, les loups et leurs ancêtres. Et puis les humains sont arrivés, il y a eu un stress écologique probablement très important qui a été opéré. La population des loups a reculé et à ce moment-là, il y a eu une alliance entre quelques centaines de loups et nos ancêtres. Et cet épisode de domestication qui vraiment est antérieur à tous les autres, de
très loin.
Oui, c'est
ça, c'est bien après que les hommes ont domestiqué les autres animaux. Hein.
Oui, tout à fait. Donc ça reste une énigme. C'est-à-dire qu'on n'a pas domestiqué le chien pour le manger.
Quoi qu'on le mange parfois dans certains endroits, voilà. Mais ce n'est pas pour ça.
Voilà, ce n'était pas pour ça. Donc c'est une relation unique dans les animaux qui nous entourent. Et par ailleurs, aujourd'hui, comme on a coévolué très longtemps avec lui et qu'il peut adapter que l'on peut sélectionner énormément de tailles en lui, tout simplement parce que le processus de reproduction est tellement rapide que l'on peut sélectionner dans les portées le chiot qui a les traits qui nous intéressent. Il y a plusieurs conséquences. D'abord, l'extraordinaire plasticité des tâches que peut accomplir un chien. On trouve des chiens guides d'aveugles, des chiens qui vont chercher les gens sous des avalanches, d'autres qui détectent des mines, d'autres qui servent de chiens policiers, des chiens de garde, des chiens qui gardent les brebis, enfin... Le nombre de tâches que l'on peut confier à un chien est absolument extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a sélectionné des animaux qui sont à notre écoute permanente. C'est-à-dire que si c'est un outil absolument d'une efficacité absolument unique, c'est aussi parce que pendant 15 000 ans, on a fait attention à sélectionner un animal qui soit à notre écoute, à notre service, toujours prêt à nous aider, qui est empathiquement lié à nous. Et c'est le seul animal qui est capable de déchiffrer un regard humain, de comprendre que quand on regarde quelque chose, il faut regarder cette chose et éventuellement aller la chercher.
Oui, le chien, il suit le regard humain. Et le chien, il nous attendrit énormément. C'est une de vos thèses hein, sur le chien et sur cette coévolution et sur qui a domestiqué qui, au fond. C'est que vous nous dites, c'est vrai, le chien, il a une bonne bouille, il nous attendrit, il a des grands yeux. Le chien, il est très enfantin. Ça serait un loup resté enfant. C'est un peu ce que vous nous dites.
Oui, tout à fait. C'est en fait le secret de la domestication du chien. C'est que si vous viviez avec un loup gris de 50 kilos resté à l'état naturel, ça ne serait pas de tout repos. Ça serait même potentiellement dangereux. Et le truc, en fait, c'est tout simplement de sélectionner les caractères de nouveau-nés, on dit néoténiques, chez les chiots de génération en génération, de façon à avoir un animal qui est maintenu en permanence à l'adolescence ou dans l'enfance. Un chien est en fait un loup immature. Je veux dire par là que c'est un loup que l'on maintient dans l'enfance pour le dominer. Et ça se voit jusque, non seulement dans le comportement, un chien, même adulte, peut passer son temps à jouer si on le stimule pour ça, mais également dans la morphologie. Par rapport à un loup, les pattes d'un chien sont courte. Un chien aboie, le loup, c'est à l'état de louveteau qu'il aboie, c'est un cri de détresse pour petit.
Ah, les loups n'aboient que petit.
Voilà. Ce signal précis, c'est un signal enfantin. De même, la queue recourbée, c'est un trait de louveteau que n'ont pas les loups à l'âge adulte. Les oreilles tombantes, le museau court, les petites dents. C'est toujours mieux quand vous domestiquez un animal qu'il ait des petites dents et pas d'énormes crocs.
C'est mieux.
Mais ce sont également des traits de nouveau-né. Et par ailleurs, ça joue dans cette coévolution dont je vous parlais. C'est-à-dire que le truc du chien qui va survivre, c'est qu'à l'état de chaud, il a réussi à apitoyer un humain qui va lui donner à manger. Et donc, plus sa bouille ressemblera à celle d'un bébé, un petit nez, des grands yeux attendrissants qui envoient le message « Prends soin de moi, sinon je vais mourir ». Message pour lequel nous sommes génétiquement codés pour répondre positivement. Voilà. Et tout le succès, en fait, des chiens de type bulldog français, comme des chats aujourd'hui, des vidéos virales de ces animaux kawaii, mignons, ça vient du fait qu'ils aient une bouille de nouveau-né pour qu'on en prenne soin.
On y repensera la prochaine fois qu'on gardera un petit chien qui nous émeut. Parfois, on se dit qu'il ne leur manque que la parole. Et encore, certains sont des divinités hein, aussi. Il y a des chiens qui sont vénérés dans le monde, Laurent Testaud.
Oui, il y a eu des chiens vénérés lors des cultes de guérison. Il y a eu aussi beaucoup de chiens dans différentes cultures qui étaient des animaux qui aidaient les morts à aller dans l'au-delà. Ce qu'on appelle des psychopompes. C'est le cas en Égypte. La divinité du monde des morts est un humain à tête de chacal, Anubis, ou à tête de loup, ou à tête de chien, peu importe. Et dans les cultures d'Amérique centrale, en Mésoamérique, l'animal lié aux enfers était également un chien jeune qui permettait de se rendre dans l'au-delà. Et souvent, on a sacrifié des chiens pour accompagner les gens dans l'au-delà, voire on a fait des festins à base de chiens au moment du décès des gens pour qu'ils aient un compagnon dans l'au-delà. Donc il y a une relation un peu qui est peut-être liée avec le fait que les canidés aiment bien les cimetières pour les os qu'on peut y trouver.
Donc pour accompagner les morts, donc dans l'au-delà, chien, le rôle sacré du chien, et puis évidemment le chien est compagnon des enfants. Hein. On a tous le souvenir de Lassie, de Rintintin ou de Belle et Sébastien. Il tient une grande part dans les contes aussi, dans les histoires pour enfants, le chien, et dans les films.
Oui, parce que en fait, on peut très bien confier des enfants à un chien, il les protégera, il en prendra soin.
Donc inversement, on peut à chaque fois lui demander au chien ce qu'il nous demande à nous, de le protéger, de l'élever, on est dépendant, on est codépendant, le chien et l'homme.
Codépendant. Nous pensons que nous pouvons nous passer du chien alors que le chien peut difficilement se passer de nous. Même retourné à l'état sauvage, il reste spontanément autour de nos campements, de nos villes, etc. C'est le cas du dingo en Australie. Et il a fallu vraiment que les premiers occupants de l'Australie, les aborigènes, disparaissent quasiment du continent pour que le dingo retourne complètement à l'état sauvage. Avant, il était probablement plutôt confiné aux alentours des campements. En tout cas, sa diffusion dans les écosystèmes était moins systématique qu'elle l'a été après l'effondrement des sociétés aborigènes
comme quoi,
australiennes.
Le destin de certains hommes a pu être lié au destin de certains chiens en compagnie des chiens. Laurent Testo, je vous présente maintenant Zaza, la chienne de Thomas Fersen sur RFI.
Zaza, tu pues, mais je t'aime quand même. Zaza, ma chienne, t'es une martienne. Il te manque un œil, puis l'autre oreille. T'en as fait l'œil, mais je t'aime pareil. Zaza, tu ronfles, puis tu te dégonfles. Zaza, tu pètes, Zaza, tu fouettes. Mais je suis ton maître, je suis gros Thomas. Viens me faire la fête sur l'estomac. Zaza, tu pues, mais je t'apprécie. Le chat aussi. Coussi, coussi. Dis Zaza, c'est quoi ton problème? Arrête d'ingérer tout ce qui traîne. Croquer ma revue sur les gaines, ça va pas te rafraîchir la laine. Arrête de me briser les noix, sinon je te donne aux Chinois. Zaza, tu pleures, t'as un gros cœur. Zaza, je plaisante, t'es fatigant. Zaza, t'es belle, mais t'as grossi. T'as pris les fesses, t'es très sexy. Ce qu'il te faudrait, c'est un ami. Depuis que Nina, elle est partie, y'a pas de visite de ces temps-ci. Des gens ont peur. Zaza, tu fugues, mais je t'aime quand même. Tu mènes ta vie de bohème. Tu disparais trois jours et moi je me ronge le foie. Pareil que tu fais les kilomètres pour venir retrouver ton maître. Zaza, t'es fine, je lève ma chopine. À ta santé, ma vieille copine. Zaza, ma chienne, t'es parfumée. Mais je t'aime quand même. Je suis enrhumé.
Zaza, la chienne de Thomas Fersen sur RFI. Je vous ai vu sourire. Laurent Testo, vous l'aimez bien aussi, Zaza, la chienne.
Oui, c'est un bon résumé d'une vie canine.
Autour de la question, pourquoi l'histoire des chiens raconte aussi notre propre histoire, celle de l'humanité? Nous sommes donc en votre compagnie. Vous venez de publier, Laurent Testo, Homo Canis aux éditions Payot. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Est-ce que vous avez un chien d'ailleurs, Laurent Testo?
Non, c'est pourquoi je peux me permettre d'être totalement impartial dans les récits que je prête aux différentes races ou sous-types de chiens.
Vous pouvez leur laisser la parole finalement.
C'est ça, en toute objectivité.
Alors pourquoi certains sont très chiens, pourquoi d'autres sont plus chats, et qu'est-ce que notre rapport aux chiens dit de nous, et qu'est-ce que nos chiens disent de nous? Je propose un nouvel éclairage, c'est celui de l'historien Éric Baraté, que vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage. Il est spécialiste de l'histoire des rapports entre les hommes et les animaux. Nous l'avions reçu autour de l'exposition « Chats et chiens » à la Cité des sciences, sur cet amour inconditionnel que nous vouons à nos animaux à quatre pattes.
Oui, on les aime plus, on les aime différemment. Et nos rapports, de toute façon, aux chiens ou aux chats, changent sans arrêt. Ils ont changé depuis la domestication. Ce n'est absolument pas un rapport intemporel qui ne bougerait pas et qui n'aurait bougé que depuis 50 ans. En fait, on s'adapte sans arrêt à de nouvelles situations.
Les uns et les autres, les animaux et les hommes.
Les uns et les autres, exactement.
En France, on compte 11 millions de chats, 7 millions de chiens. C'est énorme. Et pourquoi aujourd'hui il y a plus de chats que de chiens?
Jusqu'à la fin du XXe siècle, il y a eu de plus en plus de chiens. Le retournement est assez rapide finalement. Il date de la fin du XXe siècle, des 15 dernières années.
C'est-à-dire qu'au départ, il y avait plus de chiens en France et comme animal domestique, de compagnie.
Au XXe siècle, il y a eu de plus en plus de chiens. Et la population de chiens a été multipliée par 10 en deux siècles, ce qui est absolument énorme. Puisque
à partir de quand?
À partir de la Révolution. De la Révolution à la fin du XXe, multiplication par 10, alors que la population française n'a que doublé. Donc on voit l'extraordinaire expansion du nombre de chiens.
Expansion du nombre de chiens, renversement. Expansion du nombre de chiens, Laurent Testo, aussi avec l'invention des races en Europe.
Oui, l'invention des races permet C'est d'abord une pratique élitiste, mais qui va permettre de démocratiser le chien comme objet de consommation, quelque part. Parce que avant, on sélectionnait des chiens, on avait vu apparaître des types, puis même des variétés, en fonction de tâches qu'ils pouvaient accomplir. Si vous vouliez, par exemple, un chien pour tracter une carriole, vous preniez un gros chien dans chaque portée, et au terme de quoi, vous aviez 80 kilos de muscles qui pouvaient tracter votre chariot. Avec les races, ce sont des critères esthétiques qui vont primer, et donc ça va aller de pair avec la société de consommation, et on va se mettre à avoir plus de chiens parce que ça fait partie des biens de consommation possibles, et les gens vont projeter également un imaginaire sur le chien, c'est-à-dire que si on s'imagine être quelqu'un de costaud, on va viser un husky, si on veut plutôt faire des câlins, on va avoir un bichon maltais ou quelque chose dans ce goût-là. Et donc, on va projeter soi sur le chien. Alors, le problème, c'est que certaines races, par exemple pour le husky, ont été sélectionnées comme chiens de travail.
Qui ressemblent à des chiens loups. Hein.
Oui, qui ressemblent à des chiens loups de petite taille, qui sont en fait des chiens destinés autrefois à tracter des luges, des traîneaux dans le Grand Nord. Mais un husky, c'est capable de courir 100 km par jour par moins 30. Et c'est à ce moment-là que c'est heureux, en tractant son poids, 40 kilos. Enfermer ça dans un appartement tout seul, voilà. C'est quelque chose qu'on a génétiquement sélectionné pour être une merveille de travail, mais qui a beaucoup d'énergie à dépenser. Voilà. Donc il faut penser, avant d'adopter un chien pour des raisons symboliques, de penser également à son éthologie, le fait que l'animal est là pour se sentir heureux en notre présence. Donc avoir un mode de vie qui soit compatible avec la garde d'un animal.
Parce que vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est un loup qui serait resté immature ou resté enfant. Un chien n'aime pas du tout être tout seul. Il est dépendant de nous et du coup, faut pas le laisser seul.
Oui, on l'a sélectionné pour être à notre service en permanence, en interaction avec lui en permanence. Donc génétiquement, il attend de la présence humaine.
Et puis les chiens, vous l'avez dit aussi, liés à notre société de consommation, c'est aussi aujourd'hui, maintenant, et là sur toute la planète, un symbole d'ascension sociale. Enfin, dans la classe moyenne, disons, ça fait bien d'avoir un chien et on peut en trouver. Avant, c'était plus réservé à l'Europe, aux pays occidentaux. Aujourd'hui, en Amérique du Sud, en Chine, voilà, on voit apparaître des chiens qui sont preuve quoi, d'ascension sociale, de statut social.
Oui, le chien accompagne aujourd'hui l'essor de la classe moyenne, mais en cela, il est révélateur des images qu'on se fait. Et c'est vrai depuis au moins 5000 ans, quand les élites, il y a 5000 ans, ont eu suffisamment de contrôle sur la sexualité de leurs chiens et chiennes pour avoir des types qui émergent afin de les assister. En temps de paix, on a fait des lévriers, des chiens qui couraient très vite pour montrer, regardez, j'ai le coureur le plus rapide pour m'aider à la chasse. Et en temps de guerre, des dogs, c'est-à-dire des chiens énormes qui pouvaient peser jusqu'à 100, 120 kilos avec une mâchoire extrêmement puissante, qui servaient à terroriser l'ennemi. Et donc, il y avait déjà cette image que l'on voulait renvoyer de soi-même, qui s'imprimait dans le corps des chiens. Les races, aujourd'hui, ne sont jamais qu'un prolongement de cette démarche de se refléter soi-même dans le corps de son serviteur. Et on pourrait aller plus loin avec le clonage aujourd'hui. Si on vise à l'immortalité pour les chiens en faisant cloner son propre animal, ce qui est techniquement possible aujourd'hui, n'est-ce pas notre propre immortalité à laquelle on aspire ?
C'est vraiment le miroir de notre humanité. Les chiens sont un peu notre miroir. Hein. C'est clairement ce qu'on découvre en vous lisant.
C'est ce que je fais mettre dans la bouche de Caniche, le dernier historien canin qui prend la parole à la fin de mon ouvrage. Mais oui, les chiens sont notre miroir, dans la mesure où leur corps était si prêt à être modelé qu'on a pu en faire un peu ce qu'on en voulait, qu'on a pu sélectionner des animaux. On voulait des chiens noirs pour assurer la garde, on a surtout des chiens noirs. On voulait des chiens blancs pour garder les moutons, on a surtout des chiens blancs dédiés à ces tâches-là. Ça vient d'une sélection qui fait qu'on a sans cesse influé sur le type de chien pour avoir le serviteur dont on rêvait.
Le serviteur dont on rêvait, ou alors le symbole de pouvoir dont on peut rêver aussi. Le chien et le pouvoir, on ouvre grand nos oreilles pour un portrait sonore de quelques chiens présidentiels.
Depuis Georges Pompidou, tous les présidents français en exercice ont eu un chien. Samba pour Valéry Giscard d'Estaing, Sumo pour les Chirac, Filet pour François Hollande ou encore Dumbledore pour Nicolas Sarkozy.
Voici le dernier hôte de la Maison Blanche. Il a à peine 6 mois et c'est déjà une star. Les Obama ont un chien, il s'appelle Beau.
Tout le monde sait ce matin que le président Macron a adopté un chien noir, croisé labrador griffon dans un refuge de la SPA. Tout le monde sait. Coucher Nemo ! Tout le monde sait qu'il s'appelle Nemo. On l'a même vu sur le perron de l'Elysée accueillir des délégations.
Nemo, Filae, Dumbledore ou Beau, à chaque président son chien, à chaque chien son président, on pourrait le dire comme ça, Laurent Testot.
C'est devenu un outil de communication pratique. La dernière évolution donc consiste non plus à avoir un chien de race, mais un chien croisé, adopté à la SPA. Donc effectivement, c'est une pratique populaire avec que défend ici la famille Macron. Voilà, c'est de l'image qui ne coûte pas très cher, en fait. De l'image positive qui ne coûte pas très cher.
Qu'est-ce que ça dit ? Regardez, j'ai un chien, alors il est un peu bâtard légèrement. Qu'est-ce que ça dit ?
Alors, c'est une pratique qui a été officialisée par les présidents américains, puis à leur suite par les présidents français. Ça dit qu'on est proche du peuple d'avoir un chien. Ça dit qu'on est proche de ces classes moyennes qui vous élisent, qui font la politique, enfin, qui font le fondement électoral en Occident. Et donc, qu'on est humain, qu'on est capable d'empathie vis-à-vis de plus faibles que soi, qu'on respecte des valeurs qui sont celles de la famille, des valeurs traditionnellement positives. Et c'est pour ça que s'afficher avec un chien, c'est montrer aussi un côté humain qui permet de rendre plus proche le pouvoir. C'est de la communication, hein, c'est de l'image.
Le chien rendrait plus humain les puissants, parce que le chien, il a aussi été marque de noblesse. Alors, je ne sais plus lequel vous faites parler de ça, mais le chien, il a aussi été marque de noblesse.
Oui, je fais parler le bichon.
En fait, le petit bichon, oui, c'est ça.
C'était le propre des élites que d'être entouré de chiens. Ça s'expliquait pour plusieurs raisons. D'abord, le coût, effectivement, d'entretenir des meutes. Et ensuite, le fait que la chasse était souvent monopole de la noblesse, et la plupart des chiens étaient liés à la chasse. Et aussi que, quelque part, le chien, c'est le confident. C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, tous ceux qui vous entourent sont intéressés, vous vivez dans un univers de paranoïa, et finalement, le chien est peut-être le seul être autour de vous auquel vous pouvez vous confier en toute sincérité.
Et qui vous aimera inconditionnellement.
Voilà. Et quand la chance va tourner que tout le monde vous abandonne, il n'en restera qu'un seul à votre côté, ben ça sera votre chien.
Et le chien, il a aussi d'autres lettres de noblesse, puisqu'il y a la constellation du chien, hein, il n'y a pas que sur Terre, mais quand les hommes ont levé le ciel, ont levé les yeux au ciel, ils ont nommé une constellation, la constellation du chien.
Oui, il y a également l'étoile de Sirius, qui est censée être canine, et qui effectivement regarde l'humanité de très loin, et quelque part... surveille ce que l'on fait. Et nous... C'est ce regard-là aussi de vieux sages intemporels que peuvent avoir les chiens par rapport à nous. Même s'ils vivent surtout dans le présent, cognitivement, leur corps en lui-même témoigne de cette histoire commune et permet de retracer des passés étonnants.
Quel lien entre les chiens et nous ? On reste à quatre pattes et à hauteur de museau sur RFI avec Baltique de Renaud. C'est vous qui nous l'avez mis dans les oreilles. Chanson composée en hommage à la chienne de François Mitterrand, Baltique, qui fut obligée de rester à la porte de l'église, tenue en laisse, si vous tenez-vous bien, par Michel Charras pour les obsèques à Jarnac de son maître présidentiel. Renaud sur RFI avec Baltique.
Autour de la question.
Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées, où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par infidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi. Tu as de la chance, toi, au moins. La souffrance ne t'atteint pas. L'émotion, c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé. En échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain, je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.
Un jour, Dieu reconnaîtra les chiens. C'est Renaud qui chante Baltique sur RFI et c'est votre choix musical. Laurent Testeau.
Oui, parce que les chiens étaient tellement méprisés aussi, notamment dans certains textes où on jette le corps de l'ennemi aux chiens. Il y a une marque de mépris dans certaines cultures par rapport aux chiens. Et c'est fort dommage, oui, ou la chiennerie, qui quelque part peut être aussi vue comme une sorte de pendant de l'humanité. Donc la façon dont on traite les chiens dit beaucoup sur les sociétés. Je pensais tout à l'heure notamment au fait que en Occident, on a éliminé nos chiens errants, alors qu'ils subsistent dans le reste du monde, et qu'on ait fait croire au reste du monde également que c'était là la marque de la civilisation. Et donc, quand le Japon a voulu s'occidentaliser, il a également massacré ses chiens errants et contrôlé les populations canines. Il en a été de même à Istanbul dans les années 1920. Et avant, le dispositif lui-même, ce qu'on appelle le canicide, a été expérimenté dans le monde colonial espagnol. On a nettoyé Mexico de ses chiens errants au XVIIIe siècle et c'était quelque part le prélude au contrôle des populations, un renforcement du contrôle urbain, à une densification également de l'occupation de l'espace. On ne pouvait plus avoir de chiens au bout d'un moment et on ne peut en avoir que dans des circonstances de plus en plus réduites puisque les voitures sont hostiles aux chiens, l'hyper-urbanisation est hostile aux chiens quand les friches disparaissent, qu'il n'y a plus, voilà. C'est également hostile à la vie humaine, on commence à le réaliser aujourd'hui. Les enfants font beaucoup moins de distance dans les villes parce qu'elles sont beaucoup plus dangereuses. Ils connaissent de moins en moins les rivières qui coulent, les arbres qui grandissent, etc. Et donc, quelque part, la condition canine est aussi le reflet de notre condition à nous.
Et oui, et ça c'est quelque chose, finalement, on peut voir un peu, il y a un parallèle entre le destin des chiens, le destin des hommes. Vous parliez aussi tout à l'heure, Laurent Testeau, enfin on parlait de la fabrique des races, des chiens. C'est quand même période coloniale et le choix n'est sûrement pas anodin de ces races-là plutôt que d'autres, de ces couleurs-là de chiens plutôt que d'autres. C'était aussi mettre les chiens dans des cases et dans des boîtes.
Oui, la notion de race qui émerge donc dans l'Angleterre victorienne au milieu du 19e siècle est effectivement un phénomène où on voulait contrôler le monde entier depuis l'Angleterre et on a commencé par le corps des chiens avec des papiers d'identité, un suivi de qui était le père, qui était la mère, pour garantir une pureté raciale, etc., etc. Donc c'est une conceptualisation du monde qui a pu s'expérimenter dans le corps des chiens avant de trouver des traductions diverses dans le reste du monde. Mais l'administration du monde commence comme ceci, effectivement, en mettant en document et en exerçant le pouvoir de ces documents sur des matériaux. Et le corps du chien est un matériau très malléable. Il reflète effectivement les évolutions des sociétés à cet égard.
Un jour, Dieu reconnaîtra les chiens qui sont aussi, on le rappelle, nos sauveurs, nos sauveteurs. Alors là, on pense évidemment au Saint Bernard, mais pas que. À ce sujet, nouvel éclairage du porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, le lieutenant-colonel Gabriel Plus.
Le chien, c'est un formidable compagnon, hein, notamment pour le pompier, puisqu'il va nous permettre de rechercher des victimes qui sont ensevelies. C'est quand même assez fabuleux de voir un chien qui est capable de rechercher à plusieurs mètres sous terre et de détecter la présence humaine, plusieurs mètres sous terre ou en Seine. Hein, sous les eaux, on est capable de retrouver quelqu'un, en tout cas, de détecter la présence humaine. Quel odorat humain, on est incapable de retrouver. Donc le chien entraîné est capable de sauver. À lui seul. Après, le chien est utilisé aussi par les policiers pour retrouver un certain nombre de substances, drogues ou autres. Le chien, je pense qu'on n'a pas encore fini de trouver toutes ses qualités. Vous parlez de cette qualité pour détecter une maladie, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Ça, c'est vraiment un compagnon de l'homme assez extraordinaire.
Sacré compagnon de l'homme, le chien, hein, selon ce sapeur-pompier de Paris, Gabriel Plus. Non seulement il a un flair extraordinaire pour détecter des explosifs, de la drogue, retrouver des personnes blessées ou des cadavres dans la neige, détecter aussi des œuvres d'art volées, et puis détecteur de maladies. Hein. Aujourd'hui, il y a des chiens qui sont utilisés pour détecter le cancer du sein, notamment.
Le cancer de la peau également, oui.
Cancer de la peau.
Alors, on commence juste à étudier cette question-là. Il faut savoir quand même que les chiens en question doivent être stimulés et ils ne peuvent se concentrer que 20 minutes, après quoi il faut les laisser se reposer parce que c'est une tâche très fatigante. Ils sont capables de détecter des infimes variations dans les odeurs, mais de façon absolument extraordinaire. Par exemple, l'armée américaine utilise des chiens détecteurs de mines, dont on a prouvé qu'ils étaient capables de trouver des explosifs non revêtus de métal à 3 mètres de profondeur, après qu'on ait labouré la terre, qu'on l'ait incendié avec du napalm, mais qu'on ait laissé reposer ça pendant 6 mois. Donc ça prouve l'incroyable capacité du flair. Voilà. Alors ça, pour des chiens qui ont été sélectionnés pour leur flair, des chiens de chasse comme le Beagle. Un lévrier, par exemple, a un flair moins prononcé parce qu'il chasse à vue. Certains ont été sélectionnés en fonction de leur sens. Donc tous les chiens ne feront pas ce travail-là, mais ceux qui sont capables de le faire sont des merveilles de précision et on n'a pas l'équivalent en électronique aujourd'hui.
Oui, on n'a pas l'équivalent. Hein. On n'y arrive pas à faire aussi bien que les chiens. On ne sait pas où s'arrêtera ce flair des chiens. On peut dire que ce sont les animaux les plus proches de nous, finalement.
Ce sont ceux qui ont coévolué le plus longtemps avec nous et de loin. Donc effectivement, ce sont les plus proches de nous d'un point de vue cognitif et d'un point de vue empathique.
Comment va évoluer notre histoire commune? Comment allons-nous coévoluer? Qu'en pensent les chiens? Avant d'écouter leurs réponses, petit détour par L'île aux chiens, film d'animation du génial Wes Anderson, où là encore les chiens nous racontent l'histoire, le présent et le futur de notre humanité, pour le meilleur comme pour le pire.
L'archipel japonais, dans 20 ans. Le nombre de chiens a atteint des proportions colossales. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megasaki. Le maire, M. Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'île poubelle devient un lieu d'exil. L'île aux chiens.
Je crois que j'en peux plus d'avaler ces ordures.
Exact, tu m'enlèves les mots de la bouche.
Personne ne renonce ici, alors tâchez de ne jamais l'oublier. Jamais. Tu t'appelles Rex. Toi, King. Toi, Duke. Toi, Boss. Et moi, Chief. On est une meute effrayante de mâles alpha indestructibles.
L'île aux chiens de Wes Anderson, métaphore de notre histoire commune entre hommes et chiens. Une histoire qui, bon, elle finira pas mal hein, dans ce film d'animation. Elle pourrait finir mal puisque finalement il y a la métaphore d'exil. On les tue, on les exile sur une île où ils sont condamnés à manger nos ordures. Il y a plein de corruption par derrière. C'est vraiment là encore une métaphore de notre histoire à nous, humaine, celle des chiens.
Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques points quand même, je dirais, d'espoir, puisque malgré tout, ces chiens, cette poignée de chiens errants arrivent à mettre en déroute des robots tueurs, eux-mêmes, des robots chiens d'ailleurs, tueurs.
Mais finalement, leur esprit, voilà. Leur vrai esprit vivant canin est plus fort que celui des robots chiens tueurs. Ouais.
Exactement. Donc, c'est une très très belle histoire que j'encourage à aller voir. Mais c'est effectivement une histoire de notre futur possible sur une planète poubelle, entouré de chiens qui finissent par devenir sauvages. Voilà. La science-fiction a déjà traité ça, ou même Byron, dans une de ses visions, décrit un monde hanté par la destruction et où les chiens dévorent les cadavres des humains. Voilà. Ces visions-là, elles existent depuis longtemps.
Finalement, les chiens nous accompagnent aussi dans notre imaginaire, pour le pire comme pour le meilleur. Qu'est-ce que vous avez retiré, Laurent Testaud, de cette fréquentation assidue des chiens, puisque vous les faites parler, ils racontent notre histoire, vous y avez passé du temps, vous, c'est vraiment une histoire globale, mondiale, comme vous savez les faire, dans le temps, dans l'espace, c'est des chiens qui parlent, mais qui racontent aussi notre histoire, évidemment. Qu'est-ce que vous en avez retiré ou appris ?
J'en ai retiré surtout que le chien est un diplomate, c'est-à-dire un moyen pour nous d'accéder à quelque chose que l'on a perdu alors qu'on a inventé le concept, qui est la nature. Il n'existe plus vraiment de nature sur Terre dans la mesure où tout biotope a été altéré par les humains. Mais le chien est un autre avec lequel on a des liens privilégiés et qui nous permettent donc d'accéder aux autres, nous servir de diplomate, de médian pour accéder au reste. Voilà, d'intermédiaire. Il se situe à l'interface de la culture et de la nature. Il est modelé par notre culture et en même temps, il reste un autre très proche, avec lequel on peut facilement communiquer, on peut décoder son comportement de la même façon que lui décode le nôtre, il décode nos intonations dans la voix, il sait quand on est en colère, quand on a de la peine, il nous apporte de l'affection, il y a des échanges hormonaux entre nous.
Des échanges hormonaux,
oui,
entre les chiens et nous.
C'est quand on regarde un chien dans les yeux, il se passe quelque chose dans ses hormones et dans les nôtres, qui est de l'ordre du plaisir, de la confiance, de l'empathie, donc il y a une circulation d'émotions entre lui et nous. C'est beaucoup plus difficile à avoir avec d'autres animaux. Et donc, le chien, quelque part, nous prépare à ces rencontres futures dont il va falloir élargir les expériences. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour respecter la nature, pour sauver le peu de biodiversité qui reste sur Terre, il importe d'urgence de trouver des moyens d'entrer en interaction, en communication avec le reste du vivant. Et le chien est le premier pas le plus facile à franchir pour cela.
Qu'est-ce qui vous a... Lequel est votre préféré dans toutes ces histoires de chiens ? Ou quelle histoire ? Qu'est-ce que le chien vous a soufflé à l'oreille, si j'ose dire, Laurent Testaud, et que vous auriez envie de nous faire passer pour terminer ?
Alors, mon préféré, je dirais que c'est le chien jeune, le paria, le chien de village, méprisé, mais qui vit tranquillement.
Le chien errant.
Le chien errant, voilà. Le vrai chien, c'est le brouillon génétique à partir duquel on a fabriqué du dog comme du chihuahua, qui est le plus proche du chien d'origine et que des politiques hygiénistes voudraient voir éradiquer progressivement au fur et à mesure que
parce qu'ils peuvent faire un peu peur, ces chiens parfois en meute.
Non, on peut vivre très très bien avec ces chiens-là. Je me rappelle une plage au Cap-Vert où ces chiens venaient s'allonger à côté des gens. Voilà, et beaucoup de sociétés vivent en harmonie avec ces chiens. On ne prête pas attention à travers le monde. Il n'y a que les sociétés où on les traite mal, où on leur donne des coups de pied, etc., où ces chiens-là peuvent se montrer agressifs. Sinon, par exemple, en Thaïlande, lorsqu'ils se regroupent autour des temples pour trouver un peu à manger, ils sont adorables.
Merci infiniment, Laurent Testaud, d'être venu en direct partager un peu de cette histoire commune entre les chiens et nous, les chiens des chiens et l'histoire des chiens et de l'humanité. C'est le sous-titre de votre livre, Homo Canis, paru aux éditions Payot. Avis aux amateurs. Merci, Laurent Testaud.
Merci, Caroline.
tour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour une nouvelle rediffusion estivale. Autour de la question, pourquoi le sel nous ensorcelle depuis toujours, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Nous emprunterons les routes du sel, de l'esclavage à la mondialisation, avec l'historien du sel Jean-Claude Hoquet. Hugo Violas à la réalisation de cette émission forcément salée, avec en coulisses Tania Tsikounas et Caroline Lachowski au micro. Merci de votre fidélité et de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans une minute.